tous très contents de vous retrouver pour notre sixième CQFR de la semaine, le ce à quoi il fallait répondre, celui où par définition on répond aux questions des auditeurs. Pour me rejoindre à mes côtés, il y a Théo. Théo, on va découvrir les questions sur le tas et on va essayer d'y répondre du mieux possible.
Ouais, c'est ça, parce que pour être 100% franc avec vous, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, on est en plein bouclage du prochain numéro de Reverse. Donc là, les nuits sont courtes, mais les journées sont longues. Donc on va le faire comme les semaines précédentes avec Shai. Quoique Shai avait bien géré ça la semaine d'avant. Mais je vais découvrir les questions en même temps qu'Antoine. Comme ça, il n'y a pas de tricherie non plus. Tu pourras pas me dire, ouais, mais t'avais regardé les stats, t'étais arrivé préparé et tout. Je suis tombé dans le même traquenard que toi, Antoine. On va découvrir ça ensemble. Allez, je commence avec la première question. Question qui nous est envoyé par Maxime et qui nous dit: je voudrais vous poser une question en lien avec le trophée de Defensive Player of the Year de Rudy cette semaine. Depuis 2013, n'en déplaise à notre ami Gilbert Arenas, les Européens ont remporté 7 trophées de DPOY. Les 4 de Rudy, Noah, Yanis et Marc Gasol. De plus, Victor risque d'en rafler quelques-uns dans les années à venir. Y voyez-vous une raison en fonction de la formation par rapport à celle des US, ou est-ce que c'est juste la mondialisation de la NBA? Merci pour vos analyses bien plus pertinentes que ce bon vieux Gilbert et pour votre bonne humeur habituelle. Voilà, question de Maxime qui remet un petit peu les Européens à l'honneur du côté de la défense.
Bah, merci à Maxime, et je pense que c'est un mix des deux. Il y a évidemment le fait qu'il y ait une ouverture sur l'international. Bon, bah, par définition, c'est de plus en plus de joueurs européens, de plus en plus de très bons joueurs européens, de plus en plus de joueurs européens susceptibles d'avoir des trophées. Mais je pense que pour la défense, très clairement, il y a une histoire de formation, de style de jeu aussi, en fait. Tu es obligé de défendre en Europe. Et je pense que de manière globale, en fait, les fondamentaux collectifs sont beaucoup plus forts en Europe, sont beaucoup mieux instruits par rapport à la NBA, enfin aux États-Unis, pardon, pas à la NBA, mais aux États-Unis, où les jeunes Américains grandissent surtout en se développant en tant que prospect individuel, et du coup, il faut développer surtout son jeu offensif. Le collectif est mis un peu de côté. Il y a pas de club amateur, il y a pas les mêmes formations. Je pense que pour moi, c'est le premier élément. Et puis je vois les grandes formes. Enfin, tu vois, la France ou l'Allemagne, c'est des équipes européennes qui se basent notamment sur leur défense. L'Espagne aussi a toujours eu une défense étouffante dans son style, même si évidemment on pense peut-être au talent offensif, mais en fait l'Espagne avait aussi toujours une très grande défense. Voilà, c'est des trucs qui marquent. La Serbie un peu moins. Serbe, c'est pas trop leur truc de défendre, mais dans l'esprit, j'ai l'impression qu'en Europe, on est quand même plus axé sur la défense collective. Et c'est ce qu'explique par exemple Rudy Gobert. Il est fort sur l'homme, mais son vrai point fort pour moi, c'est le fait qu'avec lui, tu as toute une défense qui fonctionne, quoi.
Ben, non, mais tu as raison, sur Rudy, on en avait parlé à plusieurs reprises. Le truc, c'est aussi c'est ça qui me fait rire, c'est qu'en fait, Gilbert Arenas, il a jamais vu un match d'Euroleague de sa vie, en fait. Il sait même pas comment fonctionne le championnat. Et en fait, par le simple jeu des montées et des descentes dans les championnats FIBA, tu peux pas te permettre, en fait, de pas. Même si tu es jeune. Tu vas pas être sur le terrain si t'es juste un scoreur, en fait, parce que tu peux pas, t'es trop handicapant potentiellement pour ton équipe. Et il y a déjà, nous on trouve que parfois dans le championnat de France, même si ça a bougé quand même ces 10 dernières années, on regrette qu'il y ait pas plus de place pour les jeunes, que les jeunes puissent pas plus jouer, etc., tout simplement parce que c'est trop compliqué, ou parfois c'est une trop grande prise de risque pour les clubs de mettre des joueurs inexpérimentés sur le terrain. Et donc en fait, si t'as été un jeune pro en Europe, tu sais jouer des deux côtés du terrain. Ça veut pas dire que Luka Doncic était le stopper du Real Madrid quand il jouait à Madrid, mais il pouvait tenir sa place, en fait. Sinon, je trouve que c'est les propos de Gilbert, c'est une telle méconnaissance du basket mondial que c'en est risible. Et effectivement, je veux dire, comme le souligne Maxime assez facilement avec une petite recherche, enfin, je veux pas minimiser le travail effectué par Maxime pour envoyer sa question, mais si Gilbert avait tapé DPOY dans Google ou dans Wikipédia, il serait rendu compte que son argument tient pas la route. Donc bon.
Du Arenas.
Du Arenas, ouais. Il y en a du bon, il y en a souvent du mauvais, là, c'est vraiment pas terrible, quoi. Allez, j'enchaîne avec une autre question envoyée par Rudy, qui veut parler de Boston. Il dit: la boucherie à l'Est continue, les Clippers, Lakers ont trépassé, les Nuggets sont pas loin de la fin, peut-être même d'ici samedi. OKC et Dallas se préparent gentiment à s'étriper, chaque série régale, c'est incroyable. Si on se tourne vers la conférence Est, Boston semble logiquement favori au vu de sa saison et de son bol et de son bilan. Boston aurait-il le même bilan à l'Ouest, bien qu'ils aient au final un bilan de 23 victoires pour... il manque un chiffre dans la question, donc dites-nous combien ils ont de défaites contre les équipes de l'Ouest, parce que c'est pas dans la question. Ne voit-on pas Boston trop beau dans une conférence faible?
Non, je pense que ça reste la meilleure
C'est une
équipe de
question
la
qui nous
Ligue.
a été envoyée avant la défaite de Boston dans le match 2 face aux Cavs. C'était juste pour préciser.
Ils sont à. C'est 23-7 leur bilan contre la Conférence Ouest. Par calcul, là, je viens de te le trouver. Je pense que ça reste la meilleure équipe de la Ligue, même s'ils avaient joué à l'Ouest, ils n'auraient pas eu le même bilan. Mais je pense quand même que c'est les plus forts sur le papier. Tu vois, ils ont le meilleur 5 majeur. Il y a quand même plein de choses qui fonctionnent. Il y a une rotation que j'aime bien. Je trouve que le banc n'est pas mauvais, personnellement. Quand ils sont au complet, il faut rappeler qu'en ce moment, ils jouent sur Porzingis. Quand ils sont au complet, je pense que ça reste la meilleure équipe de la Ligue. Par contre, oui, effectivement, eux, ils vont peut-être moins s'employer. Et encore, on a vu, les Cavs sont revenus à un partout. On verra ce que ça donne. S'ils jouaient les Pacers, je serais quand même d'avis de dire que les Celtics sont largement favoris. S'ils jouaient les Knicks, qui mènent actuellement 2-0, il y a de fortes chances que les Knicks soient largement diminués. Donc oui, ils ont un chemin assez, pas aisé, parce que c'est jamais facile, mais ils ont un chemin plus simple jusqu'au final, donc avec potentiellement peut-être un peu moins s'employer. Maintenant, je me souviens dans la SQFR, moi, il y a un truc que je redoute, c'est... Ils vont pas avoir. En fait, j'ai l'impression que les Celtics, ils vont pas avoir besoin de faire un ajustement majeur ou d'aller puiser dans leurs grandes ressources mentales pour aller jusqu'en finale. Et le risque, c'est à un moment de se retrouver justement face à l'adversité très tard et tu sais pas comment tu l'affrontes. Tu m'avais répondu assez justement que bah c'est leur expérience, le fait qu'ils sont déjà allés en finale 2022. Tu vois qu'il y a des choses. C'est ça qui est censé être le pour eux le point sur lequel s'appuyer. Genre en mode ah bah on connaît, on a déjà traversé tout ça, mais voilà, ils ont tendance des fois un peu à se relâcher. Je pense que c'est ce qui s'est passé notamment sur le Game 2 contre les Cavaliers. Donc, à voir si c'est qu'un avantage. Je dirais que sur le papier, a priori, c'est plutôt cool d'être dans la conférence faible. Mais faudra voir. Il y a des équipes, l'équipe qui va aller en finale à l'Ouest, quelle qu'elle soit, elle aura été testée en fait. Même si c'est les Timberwolves, par exemple, qui n'ont toujours pas perdu un match, tu sais qu'ils auront été testés d'une manière ou d'une autre avant d'arriver jusque-là.
Ouais, mais je partage ton avis, Antoine. Cette équipe de Boston est vraiment très forte. Elle est hyper dominatrice depuis le début de la saison. Moi, j'ai été épaté. Hein, je m'attendais pas forcément quand même à ce que la domination soit telle. C'est vrai que en playoff à l'Est, bah, il bénéficie malgré tout du fait que Milwaukee soit déjà sorti, que Philadelphie soit déjà sorti. Je jette pas la pierre du tout à l'équipe de New York qui, je pense, sur le papier, en fait, pourrait peut-être être celle qui pourrait justement tester un petit peu leur dureté mentale si jamais leur chemin devait se croiser parce qu'à cause de la manière dont joue New York, tout simplement, où tu sais que ça va être fatigant, ça va être dur, etc. Mais comme toi, j'ai peur malgré tout, si jamais New York devait passer la demi-finale et arriver jusqu'en finale, j'ai peur qu'ils soient trop sur les rotules peut-être pour pouvoir freiner un petit peu Boston. Après, il faut voir quand même. Pour Boston, c'est alors c'est paradoxal, c'est peut-être que c'est un peu peut-être comment dire pas irrationnel, mais je saurais pas te dire exactement pourquoi. Mais j'ai pas totalement confiance non plus dans cette équipe de Boston. On a vu, alors c'était peut-être l'affaire d'un match, mais que sur le match 2 face aux Cavs, bah, c'était quand même pas tout à fait la même sans Kristaps Porzingis, ils étaient vite retombés quand même dans leur travers un petit peu. J'ai trouvé dans le jeu, enfin, Cleveland les a fait retomber dans leur travers. C'est pas simplement Boston qui a perdu tout seul. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce qu'ils vont arriver sans avoir été testés jusqu'en finale? Est-ce que c'est une force ou est-ce que ça peut être une faiblesse si tu te retrouves dans le dur à ce moment-là? Il y a quand même, je suis d'accord, le banc de Boston est pas mal. Mais il est pas mal parce qu'il y a un 5 majeur qui est extraordinaire. Là, bon, il n'y a pas Porzingis. Comme toutes les équipes, tu me dis bien sûr, si tu as un membre du 5 et tu en as deux qui sautent, bah, tu te retrouves en difficulté, pardon. C'est vrai de toutes les équipes et en même temps, c'est pas aussi vrai de toutes les équipes. Voilà. J'attends de voir. En fait, j'ai hâte de les voir un peu tester, en fait, pour voir si ce que je te disais plus tôt dans la semaine, si toutes ces expériences acquises au fur et à mesure des années leur ont vraiment permis maintenant de se dire non, mais on est déjà passé par là, on sait ce qu'on a à faire, on va le faire, ou s'ils sont encore un petit peu friables. C'est ce que tout le monde se demande, je pense.
Ouais.
Allez, question suivante envoyée par Philippe de Montrouge qui nous dit Montrouge le 8 mai 2024. Salut la team Basket Reverse, Basket Session Reverse, Théo, Chat et Antoine et tout le reste de l'équipe. Je viens de finir d'écouter le podcast sur les Clippers et ils ont pardon. Je viens d'écouter le podcast sur les Clippers dans lequel on se demandait s'ils avaient encore de l'espoir. C'est passionnant comme toujours. Bah, merci pour le retour.
Merci.
Par rapport à ce podcast, une question me vient à l'esprit concernant les Nets. À l'avenir, Une vidéo du même genre avec comme intitulé « Les Nets, quel avenir ?» aurait été une très bonne idée pour un prochain podcast, même si je sais que vous ne pourrez pas en faire une vidéo pour chaque franchise, ce que je conçois tout à fait. Donc dans un premier temps, je vous demanderai de répondre par le biais du CQFR du samedi, et je vous mets ma question. Les Nets, quel avenir ? En prenant en considération l'arrivée du nouveau coach Jordi Fernandez, saluez pour moi toute votre équipe, prenez soin de vous et de vos proches, et bonne continuation pour les playoffs, et à bientôt, cordialement, Philippe. Merci Philippe pour le message, merci, ça fait beaucoup, super plaisir. Ouais, quel avenir pour les Nets ? Effectivement, avant que je te laisse répondre, Antoine, je t'avoue que moi, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de voir cette équipe de Brooklyn sur le terrain cette année. J'avais, c'est paradoxal, mais plutôt bien aimé ce qu'ils avaient montré en fin de saison dernière, une fois que, après le trade de Kyrie, j'ai trouvé qu'ils avaient plein de joueurs qui étaient quand même intéressants, pas mal d'extérieurs qui peuvent défendre et shooter à 3 points, une espèce de... Je les vois un peu comme un vivier, tu sais, donc tout un tas d'autres équipes dans lesquelles pourraient venir piocher des joueurs pour compléter leur rotation. J'étais quand même salement déçu finalement de la saison. Il y a Ben Simmons qui est venu, parvenu, puis reparti, puis revenu, puis finalement on l'a plus vu du tout. Ouais, j'attendais plus pour cette équipe des Nets et j'étais ravi en apprenant la nomination de Jordi Fernandez que j'avais trouvé impressionnant avec l'équipe du Canada. J'ai hâte de voir ce que ça a donné en fait, Brooklyn.
Ouais, moi aussi parce que j'ai l'impression que ça peut, en fait, c'est l'équipe moyenne par excellence, donc elle est sur une ligne, tu vois, elle avance tout droit, et ça peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre. Là, sur cette saison, c'est tombé dans le négatif, mais je me demande si, pour un nouveau coach, je parle même pas particulièrement de tactique, mais juste l'esprit de groupe, en fait. J'ai trouvé que les Nets étaient décevants à ce niveau-là, en plus pour les avoir vus de près quand ils sont venus à Paris. Je sais pas comment l'expliquer. Dans les bons termes, mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui cliquait pas, alors que comme toi, je pense que sur le papier, il y a quand même du talent, pas beaucoup de talent, parce qu'il n'y a pas un super joueur, tu vois, mais il y a plein de bons joueurs, et normalement, l'Est, plein de bons joueurs, ça suffit, tu vois. J'ai été particulièrement déçu de la saison de Mikal Bridges, honnêtement, je pense que c'est un très bon joueur, c'est un costume qui n'est pas du tout taillé pour lui, par contre, il peut y avoir un monde où Jordi Fernandez, en fait, il arrive à tirer le maximum de cet effectif. Tu vois l'expression « tirer le meilleur de, son effectif ». Et d'un coup, les Nets deviennent une équipe qui peut faire ce qu'a fait les Pacers. Où, après, voilà, les Pacers ont quand même deux All-Stars. C'est vrai que les Nets ne sont pas ça. Mais ouais, une saison de ce genre où tu vises quand même un peu plus haut, t'es peut-être pas 5-6 places au-dessus, mais t'es quand même suffisamment bien placé, t'es du poil à gratter, et tu redeviens cette équipe où tu dis « Ah, bah si, il y avait une star ici, qu'est-ce que ça serait bien, tu vois ?» Là, tu peux te le dire sur le papier, mais dans les faits, c'était vraiment moche. Il y a des joueurs intéressants, Cameron Johnson, Mikal Bridges, évidemment, Nick Claxton, etc. Mais l'avenir, il est… Pardon, excuse-moi, je vais finir là-dessus, mais… L'avenir, il est délicat, c'est que les Nets, en fait, ils peuvent pas reconstruire. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être compétitifs ou d'être un peu compétitifs parce qu'il n'y a pas de pic. Les Nets, j'ai vu très souvent ça, ouais, les Nets, t'aurais tout cassé. Mais non, parce que si tu casses tout, en fait, oui, tu récupères des pics, mais tu récupères des pics d'une autre équipe, c'est pas les tiens. Donc, c'est les pics d'une franchise qui, a priori, en plus, en récupérant un bon joueur, va terminer, je sais pas, assez bien classé. Et tu te reconstruis jamais en ayant 4 choix de draft autour de la 20e position. C'est pas du tout le but. Pour quand tu veux te reconstruire, tu veux à un moment choper le gros lot à la loterie. Et les Brooklyn Nets, je le rappelle, s'ils ont le premier choix de la draft demain, ben c'est pas pour eux. C'est pour les Rockets ou je sais plus à qui appartiennent leurs picks. J'imagine que c'est les Rockets. Donc tu peux pas te reconstruire. Tu es obligé de maintenir un semblant de compétitivité. Et je pense que le choix de Jordi Fernandez va dans ce sens. Il y a des talents à développer dans cet effectif, que ce soit Cam Thomas, Bridges, Johnson, Claxton, etc. Si lui, il arrive à tirer le meilleur de tout ça, ça peut faire une très belle saison l'an prochain, ou une saison plus que correcte. Pas très belle saison, mais une saison plus que correcte.
Ouais, non, c'est clair. Je pense que je partage ton avis. J'ai l'impression qu'ils sont revenus à la case dans laquelle ils étaient quand ils avaient Kenny Atkinson à la tête de l'équipe avec un roster jeune, sans vrai star en fait. Je pense que Mikal Bridges, je le mettrais quand même dans la catégorie des super joueurs. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il n'a pas le costume, en fait, il n'a pas les épaules pour le costume de franchise player aux premières options. Mais je pense que moi je trouve que c'est un super joueur. La limite, c'est qu'il n'est pas aussi jeune que les gens le pensent. Mais par contre, voilà, il y a tout est en place, je pense.
Mais l'ensemble de l'effectif, si je peux me permettre, n'est pas aussi jeune que ce que les gens pensent. À part Cam Thomas, il n'y a pas un mec qui est jeune, quoi.
Non, mais c'est clair, c'est des mecs qui sont quoi, entre 25 et 27 ans, pour j'imagine, la moyenne à peu près de l'équipe. Ce qui est intéressant, en fait, tu parles d'état d'esprit, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le choix de Jordi Fernandez, c'est quand tu voyais l'état d'esprit qu'il avait créé avec la sélection du Canada, où les mecs jouaient leur rôle parfaitement, il n'y avait pas d'énervement. Bon, c'est plus facile quand tu as Shai Gilgeous-Alexander pour piloter l'ensemble, ça je le dis pas, mais. Je trouve qu'on a vu qu'il était à même de créer de faire d'une collection de talents qui n'avaient jamais vraiment joué ensemble une équipe. Enfin, je parle pour les stars, parce que certains joueurs ont participé aux campagnes de qualification pour le Canada, bien sûr. Et quand je regarde cette équipe de Brooklyn, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont vraiment intéressants et qui peuvent soit fonctionner ensemble, soit te permettre quand même, en les envoyant à des endroits bien précis pour aller récupérer des choix de draft bien précis, te permettre de reconstruire au fil de l'eau. Par contre, ça va pas être un chambardement d'une saison sur l'autre. Je regardais un petit peu les choix de draft qu'ils ont. Il y en a quand même qui sont pas inintéressants. 2026, tu as des choix de Détroit, Milwaukee, Orlando. Orlando, je pense que ça sera fort. Détroit, Milwaukee, il faudra voir un petit peu où ça en est à ce moment-là. Et je pense qu'ils peuvent aussi aller essayer de mettre en place des trades potentiellement avec des équipes qui ont des choix de draft mais qui sont pas les leurs en fait. Genre, si tu regardes, alors, ça va être une équipe comme OKC par exemple qui doit avoir la moitié des choix de draft de la ligue. OKC a un paquet de choix de draft qui sont pas que les leurs en fait. Donc tu peux essayer de dire on veut échanger contre des picks mais pas les vôtres, ceux que vous avez de d'autres équipes qui elles seront parties pour pas performer quoi.
Ceux de 2026, par contre, c'est des seconds tours, hein. C'est pas un premier tour. Ils n'ont pas un
Un beau
premier
temps pour
tour de
moi.
Détroit. Ouais,
Ah oui, t'as
mais
raison,
par
t'as raison.
contre, je suis d'accord sur le fait que tu peux, ou même si c'est pas des tours de draft, ça peut être aussi, par exemple, Bridges, comme c'est un vétéran, tu peux peut-être au moins récupérer un jeune semi-prometteur. Tu n'auras pas les jeunes stars de demain si tu dé. Je sais toujours pas à quoi penser de cette rumeur comme quoi il pouvait récupérer Jalen Green et les quatre tours de draft. J'y crois pas. J'y crois
Ça me
vraiment
semble
pas,
trop, hein,
honnêtement.
franchement.
Je vois vraiment pas pourquoi les Rockets proposeraient ça, même si c'était au moment où Jalen Green était en difficulté. En fait, ça n'a pas de sens de te séparer de ton joueur de 22 ans et de 4 tours de draft pour un mec qui va en avoir 28 et qui fait une mauvaise saison et qui a moins de 20 points par match, moins de 45% au tir. Tu vois, ça n'avait vraiment aucun sens. Donc, je crois pas du tout à cette rumeur. Mais par contre, Bridges, ou tu vois, tu peux aller chercher, je sais pas, un jeune qui est un peu intéressant. Pas les top picks, pas les Scoot Anderson, pas les mecs comme ça. Mais pour essayer de trouver des talents où tu te dis, bah, lui, Jordi Fernandez, il va en faire vraiment un mec très fort, tu vois, ou un mec fort. Il y a des options comme ça. Il y a encore des choses à faire, en tout cas, avec cette équipe des Nets. Et je trouve que Sean Marks, mine de rien, est un bon GM. Je sais qu'il y a quelques choix qui sont un peu, par moment, ça peut sembler décevant, mais je pense que c'est un bon GM. Il y a un très bon coach. On verra ce qu'il donne en NBA en tant que coach principal, mais j'y crois beaucoup à Jordi Fernandez.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi pour Sean Marks. En fait, c'est un mec qui est. Faut se rappeler dans quelle situation étaient les Nets quand il est arrivé. Ils étaient vraiment perdus. Finalement, la reconstruction n'a pas été si lente que ça. Derrière, il y a eu deux paris. Des paris, je pense que la plupart des GM auraient certainement tenté. Si tu peux réunir trois des meilleurs joueurs à leur poste de toute la ligue, bah, tu le fais. Je pense qu'ils avaient conscience que c'était un pari. C'est un pari qui n'a pas fonctionné. Là, j'ai l'impression qu'ils ne repartent pas d'aussi bas, finalement. La situation est moins catastrophique. Donc, moi aussi, je suis plutôt optimiste. Et il y a une question, en fait, vraiment, mais bon. Peut-être qu'il faut arrêter de se la poser en fait, mais il y a quand même toujours le cas Ben Simmons où tu sais toujours pas en fait si il reste un joueur là. Je parle pas de retrouver le Ben Simmons qui était first team all defense ou ce Ben Simmons là, mais pour le coup il est pas si vieux que ça. Il y a encore du potentiel, il y a encore du basket là-dedans, et c'est vraiment, je pense, un joueur qui peut changer la donne. Alors, pas faire des Nets un contender, je ne dis pas du tout ça, mais qui peut servir d'accélérateur de particules si jamais il peut être fort, soit pour Brooklyn, soit pour une autre équipe, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Faudra voir. Donc, il y a le truc. Il a passé plus de minutes au Met Gala que sur le
Ouais,
terrain.
c'est clair.
C'est sûr.
Ça, c'est
Mais
dur, ça,
bon,
c'est dur.
j'espère. J'y croyais à son retour cette saison. J'espère que pour l'an prochain, il y a un moment quand même où ça va aller.
Il y a un joueur dont on ne parle jamais, mais pour le coup qui progresse d'année en année, c'est Nick Claxton. Moi, je trouve vraiment impressionnant ce joueur. C'est, je pense, un joueur qui est précieux pour Brooklyn et qui peut, ou qui devrait en tout cas, intéresser plein de joueurs, plein d'autres équipes, parce que c'est vraiment. En fait, je trouve que finalement, il a une capacité à arriver chaque nouvelle saison avec un peu plus de choses dans son arsenal, qui n'est pas si commune que ça, en fait. Allez, on enchaîne. Alors, tac, tac, tac. Pardon, je découvre la question en même temps que vous. Question sur. Allez, je lis la question. C'est une question de Fred sur Rudy Gobert. Merci pour ce que vous faites. En vous écoutant, vous me rappelez qu'on a la meilleure ligue pro au monde, les meilleurs athlètes, mais aussi les meilleurs journalistes. Ah, merci. Ça, c'est abusé. J'aurais pas dû le lire à voix haute, en fait. Je découvre le mail en même temps. Ça fait un peu autopromo. Bref. Je vous écris pour un cri du cœur, plus pour un cri du cœur que pour une question. J'en ai assez du disrespect envers Rudy Gobert. Je souhaite plus de respect, plus de chauvinisme, plus d'amour. C'est ce que je nomme. C'est ce que. Ce jeune homme, ce que ce jeune homme accomplit est incroyable. Je ne souhaite plus qu'à chaque fois qu'on le cite, je vous kiffe, mais vous-même vous l'avez déjà fait, on dise limité en attaque. Est-ce qu'on reproche à Fabien Barthez de ne pas avoir mis autant de buts que Chilavert? C'est un joueur?
Ouais.
Tu confirmes que
Chilavert,
c'est un, tu
c'est deux
confirmes que c'est un
gardiens de
joueur?
but. Ouais.
D'accord, ok. Parce que j'en ai aucune idée, faut pas venir me tester sur le football. Le gars est tellement taffeur qu'il progresse encore à 31 ans. 4 titres de DPOY, c'est fou. Embrassez le mouvement avec moi, donnons-lui du love inconditionnel, le respect qu'il mérite sans guillemets, astérix ou parenthèse. Pour ma part, je kiffe la défense et je kiffe le voir évoluer, impacter le score sans marquer beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur joueur français de sa génération, voire de tous les temps. Je sais que vous n'aimez pas comparer les époques, je veux dire par là qu'on peut baser une équipe autour de lui. J'entends déjà la. Parker, j'entends déjà la Parker Nation hurler, mais à mes yeux, il y a débat. Parker était très fort et a apporté au système Spurs. En revanche, je trouve qu'il en a plus bénéficié. Qu'en pensez-vous? J'ai hâte de vous entendre sur ces sujets. Peace.
J'ai beau ne pas avoir un amour fou pour Tony Parker, je pense quand même que Tony Parker est quand même plusieurs crans au-dessus de Rudy dans cette histoire de meilleur joueur français de tous les temps. Et je pense que Victor dépassera de toute manière les deux. Mais Rudy, je valide. Et ce n'est pas un mauvais attaquant, hein, d'ailleurs, hein, Rudy Gobert. C'est un attaquant utile. Il y a plusieurs choses qu'il apporte en attaque. C'est juste que ce n'est pas un. De toute façon, des big men à qui tu passes la balle au poste bas, il y en a deux dans cette trois. Allez, si on compte Şengün, il y en a trois dans cette ligue. Même Valanciunas, il lui donne. Enfin, tu vois, même Valanciunas et Nurkic, c'est pas la première option de se dire ah, on va le mettre au poste bas et il va taffer. Il y en a pas beaucoup, mais sa manière de poser des écrans, il libère beaucoup d'espace avec ses écrans, sa manière de rouler, sa verticalité, sa taille. C'est pas un mauvais passeur. Je sais que c'est pas un mec qui va faire des passes décisives, mais c'est pas un mauvais passeur. Du coup, il y a un peu le cliché de se dire ouais, il a pas de move, mais c'est plus que ça l'attaque. Donc, je ne pense pas que Rudy Gobert soit un mauvais attaquant. D'ailleurs, ça lui arrive de mettre 20 points. Hein. Et ses coéquipiers le cherchent. Ses coéquipiers, il tourne quand même à quoi? Il est pas, enfin, il est pas si loin des 15 points par match, Rudy Gobert, alors qu'il joue quand même avec Towns et Edwards, qui sont deux scoreurs. Tu vois, je pense vraiment que c'est pas un mauvais attaquant. Et pour ce qui est de la défense, c'est effectivement un excellent défenseur. Maintenant, j'ai dit que Victor deviendrait le meilleur joueur français de tous les temps. Je peux me permettre de faire une petite comparaison. Je trouve que, par exemple, Rudy Gobert est un bien meilleur défenseur que Victor Wembanyama. Je sais que ça peut sembler étrange parce qu'on montre les stats, les contres, les interceptions de Victor Wembanyama. En tout cas, pour l'instant, peut-être que d'ici un an, ça va changer. Mais parce que Wembanyama apprend tellement vite que mais Gobert, il comprend le jeu nettement mieux que Wembanyama aujourd'hui. Et s'il fait pas autant de contres, c'est aussi parce qu'il n'a pas toujours besoin. C'est un mec qui arrive à éteindre plusieurs joueurs à la fois. Tu le disais une fois d'ailleurs dans un CQFR, lui aussi, on pourrait faire une compile hein, où tu vois les mecs qui attaquent pas le cercle parce qu'il est là. Il comprend tout ce qui se passe et très vite, en une fraction de seconde sur le terrain. C'est quand même le truc des grands joueurs. Effectivement, il mérite beaucoup de respect. Après, il a aussi des lacunes qu'on peut souligner, mais il mérite beaucoup de respect. Et de toute façon, ce qui se passe aux Timberwolves est aussi le fruit de Rudy Gobert. Cette équipe a été quand même bien ridicule avant Rudy Gobert. Alors évidemment, je pense que le principal atout des Timberwolves, c'est quand même l'évolution d'Anthony Edwards. Mais Gobert a une vraie place là-dedans et si Minnesota brille, c'est aussi grâce à lui.
Ouais,
Surtout grâce à lui.
ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point c'est un joueur clivant en fait. Parce que même en France, t'as l'impression qu'il y a soit les gens l'adorent, soit ils ont du mal à le supporter. Même on le lit à travers vos commentaires parfois, où soit vous dites que qu'on a raison de souligner les choses positives qu'il fait, soit on nous dit qu'on est voilà, qu'on est trop chauvin, qu'on en fait trop. Ce qui est dommage avec, pour le jeu offensif de Rudy, je vais faire une comparaison. Je sais pas si tu vas me suivre, Antoine. En fait, je lisais l'autobiographie d'un grand champion de Jiu-Jitsu qui s'appelle Rickson Gracie, et il parle du Jiu-Jitsu invisible. En gros, c'est le fait d'être, avant même qu'il y ait une confrontation, le fait d'être prêt dans ta tête et même dans tes attitudes, prêt à te défendre, en fait. Et il dit, ça, c'est déjà du jiu-jitsu, simplement, c'est invisible. Et en fait, le problème de Rudy Gobert, c'est que l'essentiel de son attaque, là où il est excellent, c'est invisible aussi. C'est-à-dire que la
Invisible.
menace du fait qu'il puisse rouler au cercle libre est tellement forte que les équipes s'organisent pour essayer d'empêcher ça au maximum. Ce qui veut dire qu'en fait, les moments où il se retrouve
Souvent,
avec
ça
la
arrive
balle,
pas, ouais.
exactement. Donc les moments où il se retrouve avec la balle, en fait, souvent, ben, c'est que y a eu, c'est que le plan offensif des Wolves a pas tout à fait fonctionné. Donc il se retrouve rarement finalement en attaque sur ses points forts, Rudy, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je
Si,
veux
si,
dire.
je vois, je
Et en
vois.
fait, cette partie-là, elle est pas identifiable par tout le monde, cette partie-là. Voilà, c'est pas pour dire que, enfin. Pas pour dire que les amoureux lambda de basket peuvent pas le saisir, mais si on leur explique pas ça, s'ils ont pas conscience de ça, ils se rendent pas compte en fait du menace offensif que représente Rudy. Et c'est un petit peu la même chose avec les fameux screen assists. Alors je sais que par exemple Zach Lowe, on a marre qu'on parle de screen assist, il trouve que maintenant on en fait trop autour de ça, mais c'est l'action offensive par, comment dire, par définition, où tu vois pas le rôle qu'il a en fait. Tu vois juste un grand qui pose un écran, et bah derrière, tu vas donner crédit soit au mec qui a fait la passe décisive pour le mec qui va marquer, soit à celui qui a marqué le panier, et lui, tu l'oublies en fait, mais il fait partie aussi de cette équation. Donc, Rudy Gobert, je trouve qu'en attaque, c'est vraiment un joueur atypique. Bien sûr, tu pourrais espérer que parfois il ait une
Un
panoplie un peu
petit
plus
hook ou des petits
développé.
trucs, ouais.
Voilà, t'es un go-to move où tu dis, bon, bah, dans telle situation, il va se reposer là-dessus. Il se trouve que c'est pas ça. Et comme toujours, en fait, tu vois, finalement, j'ai le même discours qu'avec un joueur comme Russell Westbrook. Tu peux pas espérer. Il y a combien de joueurs qui ont toute la panoplie, en fait? Il y en a. C'est les mecs dont on parle pour le trophée du GOAT. Il y en a quatre dans tous les temps, peut-être. Et même, tu peux aller chipoter en disant, ouais, mais Magic, il défendait pas si bien que ça. Même ces mecs-là, tu peux leur chercher des failles, en fait, dans le jeu. Donc.
Ouais, Jordan, c'est pas un énorme shooter à 3 points, alors c'était pas son époque, tu vois, mais tu peux pour chaque mec, bien sûr.
Exactement. Et donc, Rudy, je comprends en fait que tu dises, bien sûr, c'est même, il est, enfin, c'est même pas Victor Wembanyama en attaque, Rudy Gobert. Par contre, il y a tout un tas de choses qu'il apporte que personne d'autre apporte quasiment. Et donc, il faut faire avec les forces et les faiblesses de chaque joueur. Je comprends que parfois ça agace. Et je l'avais dit une fois, mais je pense que, franchement, je pense que c'est vrai. Il y a ce côté un petit peu d'élite sale gueule du grand, en fait. Le basket, c'est quand même toujours perçu comme un sport de grand. Et quand tu vois le plus grand sur le terrain qui échappe un ballon, qui arrive pas à remettre dedans, tu dis, ah, mais il est nul lui, juste parce qu'il est très
Ouais.
grand. Mais basket, c'est, enfin voilà, c'est pas ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis ça, c'est ce que tu disais quand tu étais en Benjamin et que tu voyais le plus grand de ton équipe qui ratait un layup, tu dis, ah, il est trop nul et tout. Mais c'est, on n'en est pas à ce stade-là. Par contre, bon, ça aussi, on a déjà parlé pas mal, Antoine, mais je continue de parfois de pas comprendre en fait pourquoi il y a tant d'acharnement en fait autour de Rudy, notamment par les autres joueurs, en fait. Tu vois, c'est ça qui m'étonne le plus. C'est pas tant le grand public, c'est quand c'est de la part d'autres joueurs NBA, c'est là que ça m'épate le plus.
Mais parce que je pense que les autres joueurs eux-mêmes, ils ont pas. Tu vois, tu parlais de ce qui est difficile à capter. Je pense qu'il y a des joueurs pour qui c'est aussi difficile à capter l'impact qu'il a. Après, c'est une question d'attitude. Il y a eu des éléments, tu vois, des trucs qui sont passés. Mais moi aussi, un peu comme toi, je suis un peu en mode. C'est quand même bizarre. Parce que ceux qui le côtoient, au final, finissent par bien. Enfin, tu vois, l'aiment bien, tu vois. Edwards a l'air d'avoir un profond respect pour Rudy Gobert, tu vois. Mais ouais.
Après, honnêtement, alors nous, on n'est pas potes avec Rudy, c'est pas ça, mais pour avoir eu l'occasion, bah, toi et moi, de faire plusieurs fois des interviews avec lui, c'est un mec c'est quand même dur de pas l'apprécier, je pense, quand tu le connais.
Il
C'est
est
un mec qui
très
est
cool.
simple, qui a pas du tout la grosse tête, qui est discret, en fait. Et il y a ça aussi, tu sais, je pense que. Il y a quand même, je pense, ce truc un petit peu de bah, regretter d'un côté qu'on te mette pas en avant pour ce que tu fais bien, et en même temps, pas donner suffisamment de billes aux gens pour pouvoir te faire comprendre qui tu es. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, là, sur la fin de saison, il accordait plusieurs interviews, ce qui n'était pas souvent le cas. Il y en a une vraiment intéressante avec JJ Redick notamment. Je me demande s'il n'y a pas aussi la volonté d'inverser un petit peu cette tendance, quoi.
Ouais, de se faire connaître, de partager un peu sa personnalité, ce qu'il a vécu. Il y a aussi son truc sur Player Tribune, etc.
Ouais.
Ouais, c'est clair.
Allez, une autre question. On reste sur les Wolves. Une question qui concerne Anthony Edwards, la communication et Karl-Anthony Towns. Donc cette question qui nous est envoyée par Nelson. On parle évidemment beaucoup du talent d'Anthony Edwards sur le terrain, mais je suis aussi très impressionné par sa communication et sa personnalité en dehors du terrain. En conférence d'après le Game 2, un journaliste a demandé à Kat ce que ça faisait de finalement être reconnu pour ses qualités défensives et de ne plus être vu comme un stat stuffer, donc quelqu'un qui remplit la feuille de stats mais sans que c'est vraiment d'impact. Mais Edwards a directement pris la parole pour défendre Karl-Anthony Towns. Il a expliqué que personne ne le voyait comme un joueur de ce type-là et qu'il savait depuis son arrivée au Timberwolves que Karl-Anthony Towns était un excellent défenseur, qu'il avait en fait juste besoin de se concentrer un peu plus sur cet aspect du jeu. Perso, je vois Kat comme un mauvais communicant, on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine, et là Edwards a été magistral parce qu'il défend son gars et évite à Kat des réponses hasardeuses. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il le fait, et derrière Kat, on ne sent même pas le besoin de répondre directement à la question du journaliste. Il accepte la réponse d'Edwards, comme la sienne, comme celle de son leader en fait. Du coup, ma question c'est, Edwards ne serait-il pas une espèce de numéro 1 parfait pour un gars comme Kat? Est-ce que vous avez quelques échos supplémentaires sur la relation que les deux entretiennent en dehors du terrain? Merci pour votre travail, une nouvelle fois, signé Nelson.
Merci Nelson. Je sais, pour ce qui est la dernière partie de la question, la relation entre Edwards et Katz, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'Edwards, de manière générale, il est ultra respecté par ses coéquipiers. C'est le plus jeune parmi les cadres, hein, il a 22 ans et pourtant, c'est déjà leur chef. Je veux dire, c'est le leader de cette équipe, c'est le modèle qu'ils suivent. Je trouve même que la personnalité de cette... On dit souvent, tu vois, qu'une superstar, sa personnalité influe sur le reste de l'équipe. On le voit pour chez Gildus Alexander. On le voit aussi des fois quand c'est pas bien, tu vois, pour ce qui est un peu des Clippers, tu vois, pour le coup, où tu sens qu'il n'y a pas trop de leaders, etc. On se pose la question parfois pour les Celtics, tu vois, de savoir est-ce que cette équipe, comment Tatum, il les rend meilleurs. On peut le voir pour Brunson, on voit qu'il y a tout le côté guerrier, ça vient de lui. Là, ce qui se passe à Minnesota, tu as l'impression que ça découle aussi vachement justement d'Edwards. Il a une confiance en ses coéquipiers, il leur montre, et du coup, tout le monde se fait confiance, tu vois. C'est un peu comme Tim Duncan, tu vois, de se dire ah bah mais si lui il écoute le coach, bah je vais écouter le coach. Bah tiens, si Edwards il fait confiance à machin, je vais lui faire confiance. Si lui nous fait confiance, on va tous se faire confiance. Et moi, c'est vrai que ça devient très dur de pas aimer Anthony Edwards quand même. Il y a au-delà du joueur fantastique à avoir joué, mec est drôle. Alors des fois il s'est perdu sur quelques trucs, mais il est quand même drôle, tu vois. Et en plus de ça, il a une espèce de maturité, même dans le jeu d'ailleurs, maturité dans le jeu et maturité dans la vie. Il a une histoire quand même folle, hein. Je ne sais pas si tu connais un peu son histoire. Mais
non, pas vraiment en fait.
Bah, sa mère est décédée quand il avait 14 ans et sa grand-mère qui l'élevait du coup dans la foulée est décédée, je crois, 6 mois après. Donc en fait, Edwards, il est livré à lui-même. C'est ses grands frères, dont un qui s'appelle Antoine et une qui s'appelle Antoinette. Il y a eu quand même un délire entre Anthony, Antoine, Antoinette, enfin bref. C'est eux qui l'ont élevé et ouais, maturité est folle du gars, quoi. Du coup, oui, il a 22 ans, mais bah, il a vécu des choses, quoi, clairement. Moi, j'aime beaucoup le bonhomme, franchement. Je sais plus si j'ai répondu à la question, du coup, mais voilà ce que je pense sur Edwards.
Bah, étant en deux parties, bah, je vais enchaîner comme toi. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, je connaissais pas ça, ce que tu viens de raconter, Antoine, et je trouve ça très éclairant parce qu'en fait, il a une fraîcheur qui me fait penser à celle de Yanis, alors pas le Yanis de cette année, hein. Parce que cette année, c'était un peu plombé. Mais Yanis, des années précédentes, en fait. T'es le sourire aux lèvres. Parce qu'il y a aussi ce côté, pour Yanis, clairement, il y avait ce côté de... Enfin, quand tu vois d'où il est parti, pourquoi il n'y aurait pas le sourire,
ça, c'est
en fait.
Cool, quoi. Ouais, voilà.
Exactement. C'est un des meilleurs athlètes de la planète. Il est bien payé. Il joue... Enfin, il fait ce dont il avait toujours rêvé. Quand tu vois les parcours de vie, tu dis c'est normal qu'il ait le sourire, quoi. Et je partage tout à fait ce que tu dis sur Anthony Edwards en ce qui concerne sa maturité. Et cette année, je trouve que le gap le plus important... Alors, il y avait celui sur la défense qu'on réclamait depuis plusieurs années. Antoine, on disait, il y a un moment, s'il veut être le joueur qu'il veut être, il faut qu'il montre l'exemple. Cette année, il est parfait dans ce rôle-là. Mais moi, là où il m'a le plus bluffé, c'est dans sa patience, en fait. Sur le terrain, quand il y a des prises à deux qui viennent, il lâche la balle. Il lâche la balle, la confiance dont il fait preuve envers ses coéquipiers et la qualité de sa lecture, en fait, là, je trouve ça assez dingue à son âge. 22 ans, sur ses playoffs, il joue comme un vétéran. Honnêtement, il ne fait pas de mauvais choix. Il est tout le temps dans la lecture à être ultra dominateur dans le jeu et sans forcer. Là, il y a un gap. Il a passé un gap, en fait, d'une année sur l'autre que je trouve hyper... frappant, marquant. T'as l'impression que limite c'est pas du tout le même joueur sur cette partie-là. Je sais pas d'où ça vient en fait. Tu vois, je saurais pas te dire si c'est qu'il a travaillé spécifiquement là-dessus, si c'est la collaboration avec le coaching staff, si c'est un an de plus avec Rudy Gobert et du coup enfin je dis Rudy parce que c'est le gros trade qui a changé la dynamique de cette équipe et donc de mieux
Ça l'a
comprendre
forcé à
comment.
être un playmaker. Voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, et puis l'arrivée de Michael Conley aussi, je pense qu'il doit aussi beaucoup aider. Enfin, il n'y a pas mieux quand même comme vétéran pour t'apprendre un petit peu les dessous, enfin les cordes, quoi. Quoi regarder en fonction des plans de jeu défensifs adverses, etc. En tout cas, là-dessus, il est remarquable toute cette saison.
Yes.
Il y avait un autre bout de question sur
Ouais,
4.
pardon, vas-y, s'il te plaît.
Non, non, mais je vais revenir parce que c'est vrai qu'on a souvent été dur, moi le premier, sur Karl-Anthony Towns. Il fait vraiment des très bons playoffs. Par contre, défensivement, j'émets quand même des réserves sur le fait que ce soit devenu un bon défenseur. Parce qu'on en rigolait encore ce matin, Antoine, après le CQFR, enfin, vendredi matin, après avoir fini le CQFR dans lequel on revenait sur les matchs de playoffs. Il a une capacité à faire des fautes débiles qui est quand même assez impressionnante pour un joueur de son statut, quoi. Pour le coup, lui, c'est pas un jeune joueur. Il y a des fautes qui n'ont juste pas de sens, en fait. Et là-dessus, je trouve que ça reste quand même un projet plus qu'un enfin, un projet à bâtir plutôt qu'un projet abouti.
Ouais, je suis d'accord. Il y a encore des. Même en attaque, hein, des fois, il peut y avoir des trucs débiles. Hein. Mais sur ces playoffs, effectivement, il est parfait dans son rôle. En fait, je pense qu'il a le rôle. Nelson nous demandait si Edwards n'était pas le meilleur leader pour lui. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en aurait eu d'autres, tu vois, dans la ligue qui auraient pu tirer le meilleur profit de 4. Mais ce qui est juste, c'est que Towns, il a capté vraiment que c'était plus son équipe. Il l'a accepté, ce qui est quand même fort. Ça demande une certaine maturité aussi. Tu vois, pas tout le monde qui accepte dans ce genre de situation. Il y a des mecs qui le vivent mal. Il a accepté, il a vu que c'était sans doute mieux pour lui. Et il a un rôle, je pense aussi quelque part moins de pression, tu vois. Même si, bon, il peut vite être le bouc émissaire, lui et Rudy, tu vois. Ça, les mecs que tu peux vite pointer du doigt. Mais il a un rôle qui est, je pense, taillé pour lui. Tu es la deuxième option. Et du coup, tu sais que les équipes adverses vont d'abord chercher à ralentir Edwards. Et du coup, toi, enfin, il y a le match 2, il se retrouve plusieurs fois avec Jamal Murray sur lui, en fait. Je ne sais plus si c'est le match 2 ou le match 1. C'est peut-être le match 1, je ne me souviens plus. Mais il y a un des deux matchs, je pense que c'est le match 1. Il se retrouve avec Murray sur lui et parce que la défense des Nuggets a d'abord cherché à ralentir Edwards. Et du coup, lui, il a juste à attaquer. Il est parfait dans ce rôle-là. Et puis, il met ses points, il met ses flotteurs, il met ses shoots. Non, il est excellent sur ses playoffs. Lui aussi, un peu comme tous les Timberwolves, de toute façon.
Mais ouais, non, je partage. Et sur la communication d'Anthony Edwards, je le trouve exceptionnel, en fait. Parce qu'il y a des. Je pense que c'est vraiment qu'il est vraiment sincère. Mais en fait, parfois, dans cette déclaration, tu pourrais dire, mais en fait, il est sincère ou c'est le champion du monde de troll, en fait? Parce que tu sais, la phase, genre, ils ont Kevin Garnett, ouais, mais nous, on a Jaden McDaniels. Tu peux dire. Première lecture, c'est un vrai leader. Il big up son gars, ce qu'il a fait à plusieurs reprises après plusieurs matchs. Et d'un autre côté, tu peux te dire, mais attends. Il est en train de dire que Kevin Durant, c'est pas plus important que Jaden McDaniels, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu pourrais vraiment le tourner de cette manière-là, de manière espèce de. T'es en sub-tweet, tu sais, genre comme si c'était un
Ouais.
sub-tweet en
Non, mais il
conférence
est
de
très fort
presse.
en spontané. Ah, pardon, vas-y, vas-y, vas-y.
Non, non, c'est ça. Mais du coup, je trouve que une phrase comme ça, elle est. Il y a plusieurs degrés de lecture. Et ce que tu disais, le naturel avec lequel il sort ça, je trouve que c'est magnifique. Et dans la série face aux Suns, j'ai trouvé ça. Super cool de le voir partir dans du trash talk avec Kevin Durant, mais plein sourire en fait. Tiens, être en lui disant hey, dégage de là, t'es trop vieux, maintenant c'est ma place, mais de le faire avec le sourire. Donc il y a ce côté un petit peu, c'est du trash talk, mais en même temps je te respecte, mais en même temps c'est du trash talk, et en même temps
Ouais.
tu vas te faire sweeper quoi.
Non, mais il est marrant. Moi, je le trouve marrant. Et il est très bon. C'est vrai qu'il est très bon. Je pense aussi, notamment, tu sais, les comparaisons avec Michael Jordan. Il y en a de plus en plus. Il y avait d'abord le côté physique, le côté aérien. Bref, maintenant, il y a tout ce truc-là. Et il a été très bon parce que c'est une déclat toute bête. Hein, mais il a dit non, mais il faut arrêter de me comparer. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et en fait, bim, en une phrase simple, il a mis fin au débat. C'est une phrase très simple à sortir, tu vois. Mais il y en a qui ne sauraient pas comment répondre dans ce genre de situation. Tu vois, lui, voilà, toujours très spontané. Spontanément, il a le bon truc à dire. Et... Non, il est cool, Anthony Edwards. Il doit être
Non,
marrant à interviewer d'ailleurs.
Ouais, c'est clair, mais tu vois, parce que c'est pareil, juste avant les playoffs ou pendant le début des playoffs, il y a une interview qui est sortie là où le journaliste lui demande si il se considère comme l'un des meilleurs joueurs de toute la ligue et il répond ouais, oui, je me considère comme l'un des meilleurs, mais c'est pas moi le meilleur. Et donc le gars lui dit, mais bon, mais c'est qui le meilleur? Il dit, ouais, c'est Jokic.
Ouais.
Et hands down, donc largement quoi. Et limite, le mec qui pose les questions, il leur vient pas que Anthony Edwards mette en avant Jokic comme ça, qu'il soit aussi naturel. Et je trouve. En fait, je trouve ça. Oh, je suis peut-être trop parano, mais je trouve ça mortel parce que vraiment, ça fait sincère. Et en même temps, je me dis, mais si c'est pas sincère, mais quel génie en fait. T'sais, parce que tu joues la carte de l'humilité et derrière, t'es en train de désosser les Nuggets, quoi. Et tu dis, non, c'est lui le meilleur joueur. Mais regardez, avec moi, on passe largement, tu vois. Alors la série est pas finie hein, entre Denver et les Wolves, mais je trouve ça magnifique.
C'est clair.
Allez, une question de Derwan qui nous dit: cette année, je n'ai pas vu une NBA qui bascule du mode saison régulière au mode playoff, mais j'ai vu deux sports différents. Je ne connais personne qui prenne du plaisir devant les matchs de saison régulière arbitrés comme des All-Star Games comme des All-Star Games des années 90. Franchement, il y avait plus de fautes sifflées dans les All-Star Games des années 90. Enfin, il y avait. Ça jouait plus dur dans certains All-Star Games des années 90, pardon, que dans certains matchs de saison régulière de 2024, où tous les contacts sont sanctionnés et qui se terminent par un 148-142. La NBA n'aurait-elle pas intérêt à rebasculer le curseur vers une saison régulière plus compétitive avec des matchs qui se gagnent en 120-125 points maximum?
Mais elle l'a fait en fait. Il y a eu justement une adaptation. À partir du All-Star Game, justement, la NBA a fait passer le mot aux arbitres de siffler nettement moins de fautes. Et il y a eu nettement moins de fautes. Il y a eu des matchs avec moins d'arrêts de jeu, du coup, enfin moins de temps mort, dans le sens où dès qu'il y a des lancers, forcément le chrono il s'arrête. Il y a eu moins de ce carton offensif. Donc la NBA est déjà intervenue et je pense que c'est une consigne qui va se prolonger sur l'an prochain, histoire de calmer un peu, parce que la NBA, au début, il y a eu les matchs à 70 points, a fait genre non, mais non, on n'est pas concerné, mais quand même un petit peu, tu vois. Et elle y veut, elle tient à sa crédibilité, donc il y a déjà eu cette adaptation, je pense qu'il va se prolonger. Et par contre, la saison régulière, elle est longue, il y a des temps un peu. De toute façon, elle essaye de meubler la ligue, elle veut meubler. Il y a des concrets, des événements tout le temps. Il y a le In-Season Tournament, puis il y a la Deadline, puis il y a l'All-Star Game et le MLKD, etc., etc. On crée des trucs tout du long, mais c'est vrai que ça reste quand même long. Par contre, elle est intéressante, je trouve. Je trouve qu'en de toute façon, il y a tellement de talent, tellement de bonnes équipes. C'est juste que oui, c'est. Il y a des temps dans cette saison où tu es un peu gonflé, mais regarde, si tu regardes la course à l'Ouest, par exemple. C'était tellement dingue, il y avait tellement de bonnes équipes qu'en fait la saison régulière avait du sens, tu vois. Donc moi et il y a un truc que j'aime bien d'ailleurs, c'est quand même dans l'ensemble les places en saison régulière, elles sont pas anodines parce que si tu regardes bien le Thunder et les Timberwolves étaient premiers, enfin étaient dans les trois premiers, tu vois, c'est les équipes qu'on retrouve. Les Mavericks, ok, ils étaient cinquièmes, mais ils ont fini avec leur en fait. Si tu prenais que la fin de saison, c'était le meilleur bilan, tu vois, grosso modo de l'Ouest. Donc ça a un sens. Miami, je me permets, Théo, petite pique. Miami a fini huitième, tu vois. C'était pas par hasard, tu vois. À part quand il y a des blessures, je pense notamment à Milwaukee. La hiérarchie de la saison régulière est quand même plutôt respectée, donc ça montre quand même la saison régulière. Il y a des équipes qui la jouent aussi vraiment. Et ce que tu vois n'est pas oui, moi aussi, je suis d'accord que c'est pas le même basket dans le sens où il y a un niveau. En fait, les meilleures équipes montent en intensité. Et d'ailleurs, je pense encore à Minnesota. La série Minnesota-Phoenix. Phoenix, c'était une équipe qui a quand même gagné 49 matchs en saison régulière, mais qui a pas su hausser son intensité là où les Timberwolves, ils ont dit, OK, premier tour des playoffs, on est ce qu'on est. On est l'équipe qui est très forte, mais on monte encore d'un cran. Deuxième tour des playoffs, on monte encore d'un cran et ainsi de suite, tu vois. Mais la hiérarchie est quand même plutôt la même.
Non, carrément. Et moi aussi, je trouve que la saison régulière, notamment depuis l'instauration du In-Season Tournament, est vraiment plus intéressante. Moi, je me régale sur les dernières saisons régulières, je me suis régalé. Par contre, c'est vrai que, enfin, on en avait parlé, Antoine, mais depuis que je suis le basket, on sait qu'en playoff, il y a moins de coups de sifflet et que ça joue plus dur, mais j'avais jamais vu un tel gap que cette année entre la manière dont c'est arbitré en saison régulière et en playoff. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une marche qui était impressionnante, avec beaucoup plus de liberté laissée à la défense, mais vraiment de manière. Je suis pas loin de partager, quasiment pas le même sport, j'ai l'impression que c'est pas la même ligue en fait. Et moi ça me plaît, J'aime la manière dont ces matchs de playoffs sont arbitrés. Par contre, moi, je voudrais que ça soit comme ça toute l'année. Parce que sinon, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si c'est arbitré comme ça toute l'année, il va y avoir moins de plaintes aussi. Et ça va devenir normal et on pourra être un petit peu débarrassé du fait que dès qu'il y a un coup de sifflet ou pas un coup de sifflet, tu as au moins quatre mecs sur le terrain qui ont les bras levés en disant c'est un scandale. Et à un moment, tu as envie que ça joue et que tu as envie de leur dire allez, jouez, lâchez-nous, quoi. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé que cette année, c'était tellement différent que c'était un peu déstabilisant pour certaines équipes. Et je trouve pas ça forcément juste d'un point de vue basket. Finalement, tu as joué 82 matchs. C'est censé quand même te préparer en partie à ce qui va se jouer derrière. Et là, cette année, encore une fois, je regrette pas. Hein. Je préfère que ça s'arbitre comme ça. Mais moi, j'aimerais que ça soit joué comme ça toute l'année. Parce que je trouve que les matchs en eux-mêmes sont plus intéressants. Que dès qu'il y a un break de 6-8 points, bah, c'est plus tout à fait pareil que quand. Voilà, là, finalement. Si les Mavs ont failli revenir de moins 31 face aux Clippers au premier tour. Mais finalement, là, en playoff, tu vois pas les comebacks comme il y a en saison régulière avec des retournements de situation improbables. Parce que, de toute façon, bah, voilà, tu commences à planter de partout, personne défend, t'as des coups de sifflet et puis tu te retrouves à nouveau dans le match. Moi, j'aimerais bien que ça reste comme ça toute l'année. Ouais.
Yes.
Allez, question de Rika. Une question, on change un petit peu, on va parler des Lakers. Je voulais vous parler des Lakers qui sont mon équipe préférée. Entre parenthèses, vous ne savez pas à quel point c'est difficile d'être fan des Lakers. Ils se sont fait éliminer par les Nuggets au premier tour, pas un sweep heureusement, et Darvin Ham a été licencié. Pensez-vous vraiment que Darvin Jambon est le problème des Lakers? LeBron et Anthony Davis ont l'air frustrés et font des révélations négatives. Est-ce que LeBron doit partir? Doit-il prendre sa retraite? Quel est l'avenir de ce joueur plus qu'important pour les Lakers? Perso, je pense que le problème des Lakers, c'est le banc. Pardonnez-moi, mais le banc des Lakers, c'est vraiment pitoyable. Je voulais donc vous demander ce que vous en pensez. Le fait que Howard, Caruso, etc. ne font plus partie de cette équipe, des mecs qui ont gagné le titre en 2020 a sûrement été le début des problèmes pour les Lakers. Pensez-vous vraiment que Darvin Ham devait être licencié?
Je pense que Darvin Ham, c'est pas le problème. Après, c'est peut-être une partie du problème, vu qu'apparemment, Anthony Davis était pas
C'est une question
pas
de Rika, pardon. Excuse-moi, j'ai pas précisé. Ouais.
Ouais, bah, du coup, Anthony Davis avait l'air frustré. Donc là, à partir de là, il est frustré avec le coaching staff, même si je pense que, encore une fois, ce n'est pas forcément que le staff qui est responsable de ça. Mais pourquoi pas? Ok, tu veux changer. Je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre. Mais ça va pas révolutionner les Lakers s'il n'y a pas. Moi, je suis d'accord avec lui sur le constat du banc. Par exemple, la rotation, elle est faible. Et le 5 majeur, il est très fort, mais défensivement, il est très friable. Heureusement qu'il y a Anthony Davis, hein, quand même, parce que Austin Reeves, D'Angelo Russell, Rui Hachimura et LeBron James, c'est pas. Alors, Reeves est pas forcément mauvais sur l'homme, pas aussi mauvais que ce qu'on pense. Par exemple, j'ai vu très souvent, ouais, c'est une passoire. C'est pas un défenseur d'élite, mais il y a des moments où il s'en sort pas trop mal. Par contre, en fait, eux, c'est comme. C'était pour quelle équipe déjà qu'on avait dit ça? Que dès que tu fais tourner la balle, en fait, tu. Je sais plus pour quelle équipe on avait fait ce constat.
On a parlé, c'était.
On a parlé fou, il y a pas longtemps.
C'était ce matin en plus qu'on en a parlé.
C'est Indiana. Non, c'était avant-hier. Indiana, tu vois, c'est pareil. Les Lakers, tu peux très vite les pousser à la faute. Donc, il y a une construction d'équipe qui doit être un peu différente. Alors que paradoxalement, on avait vachement souligné leur intersaison, mais. Il y a eu beaucoup de paris qui n'ont pas marché. Gabe Vincent, il n'a pas joué, tu vois. Et au final, il n'a pas joué déjà parce que c'était une question de blessure. Donc, faudrait. Après, il est revenu, mais ce n'était pas du tout le Gabe Vincent de Miami. Il y a des joueurs qui n'ont pas passé forcément le cap non plus attendu. Et même Reeves, que moi, je voyais très, très haut. Même si je pense qu'il n'est pas toujours mis dans les bonnes dispositions, je pense que les Lakers devraient quand même se séparer de D'Angelo Russell. Il n'a pas fait une mauvaise saison, D'Angelo Russell. Il a même été très bon par moment. Mais c'est souvent les bas courtes, un peu comme ça, Russell Reeves. Je pense que ça ne peut pas marcher, en fait. Ça peut marcher que jusqu'à un certain stade. Et c'est pour ça que pour moi, c'était irréaliste au possible de penser que les Lakers, c'était une équipe qui était candidate au titre, en fait. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et encore une fois, on revient, ils sont à leur place, tu vois. C'est une équipe qui est passée par le play-in. Elle est sortie au premier tour. C'est comme ça que ça se passe. Elle a fait 4 bons matchs contre les Nuggets. Non, ils prennent pas un sweep, pardon. Ils
non,
ont gagné un. Ils ont fait 5 bons matchs contre les Nuggets, tu vois. Mais y a trop de lacunes, il n'y a pas de banc, il n'y a pas assez de défense, il faut retravailler tout ça. Et quant à LeBron, moi, je pense que LeBron, on est tout proche de la retraite. Je ne serais pas surpris. Je sais que Shai, il pense qu'il va jouer encore longtemps. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que LeBron, peut-être même sa dernière année, là.
L'an prochain,
un ou deux ans, max. Ouais.
Ouais.
Je serais pas surpris qu'au final, il nous annonce. Là, il peut rien dire parce qu'il y a la draft. Je pense pas que Bronny sera drafté. Je pense même pas que Bronny va se présenter à la draft. Je pense que Bronny va retourner à la fac. Mais ouais, peut-être 2 ans s'il sent que Bronny a une chance de venir en NBA. Mais et si Bronny venait à être drafté, je serais pas surpris que ce serait la... que ce soit la dernière saison de LeBron en mode bah voilà, je l'ai fait, j'ai joué avec mon fils. Tu vois, et pour ça qu'il va annoncer en fonction de ce qui se passe à la draft. Mais 1 ou 2 ans max, à mon avis.
Ouais, parce que de toute façon, il a battu tous les records de longévité, enfin le nombre de points,
Bah
le
oui,
nombre de
c'est
points en
assez.
playoff, tout ça, c'est. Voilà, il a placé
C'est
la barre tellement
overkill.
haut. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça après, parce que c'est toujours ça, la question, c'est comment tu veux. En fait, s'il voulait continuer à jouer, LeBron, honnêtement, il peut jouer encore un nombre d'années de dingue, en fait. Tout dépend quel statut il veut avoir dans une équipe dans laquelle il continue à jouer et quel salaire il veut avoir en échange. Parce qu'en fait, les Lakers, c'est ça. Tu sais, on en parlait un petit peu, brièvement, on parlait des Suns qu'on changeait de coach. Et pour Darvinham, c'est pareil en fait. C'est OK, je ne dis pas que Darvinham, il n'est pas sur la liste des choses qui n'allaient pas aux Lakers. Pour moi, ce n'était pas la tête de liste en fait. C'est juste, tu sais, c'est comme, je sais pas, ta maison elle brûle, tu commences par essayer d'éteindre le feu, quoi. Tu commences pas par repeindre le mur de la cuisine que tu trouves moche depuis 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une hiérarchisation des priorités dans ces cas-là. Et bon, pour Darvinham a sauté, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Pour les coachs, on sait bien. Hein. Milwaukee, coach rookie, a même pas tenu toute une saison, même si je pense pas que c'était non plus forcément le principal problème. Les Lakers, le problème, enfin, une partie du problème, c'est aussi. Je veux bien que Anthony Davis et LeBron râlent en disant l'effectif, l'équipe, nanan. À un moment, tu ponctionnes les 2 tiers de la masse salariale du club pour
Ouais.
savoir ce que tu veux. Tu peux pas tout avoir. Ou alors, si tu veux tout avoir, faut être le LeBron d'il y a 5 ans, en fait. Et faut que tu sois le Anthony Davis jamais blessé. Deux choses qu'on reverra sans doute jamais sur un terrain en NBA. Donc la marge de manœuvre est quand même assez restreinte pour Los Angeles. Je pense, ce qui est sûr et certain, c'est que les Lakers ne seront pas l'équipe qui aura tradé LeBron James. Ça, c'est sûr et certain. C'est question de legacy, question de. Il restera aux Lakers tant que LeBron voudra jouer aux Lakers, il sera aux Lakers. Ça, je mets ma main coupée là-dessus. Derrière. Le truc de D'Angelo Russell, en fait, c'est. Le problème, en fait, des Lakers, il est assez proche de celui des Suns, au bout du compte. C'est que tes stars sont plus dans une capa ont plus la capacité de gommer toutes les limitations de tes remplaçants. En fait, il faut que tu aies des remplaçants élites. Et c'est pas vrai des Suns et c'est pas vrai des Lakers.
Ça peut
Et.
même... Non, pardon, je te
Non,
laisse
je
finir,
finis juste
excuse-moi.
là-dessus. Et tu peux
Ouais,
pas
vas-y.
avoir une défense qui tient la route en playoff si tu as Austin Reaves et D'Angelo Russell dans le backcourt. C'est juste pas possible, en fait.
Oui, j'allais dire, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, j'allais dire, ça s'applique même aux Warriors, en fait. C'est comme pour Curry, tu vois, Curry, LeBron, Durant, c'est des mecs, voilà, ils sont à l'âge où t'as besoin qu'il y ait le supporting cast parfait. Si LeBron, il jouait aux Celtics à la place de Tatum, les Celtics seraient sans doute favoris au titre. Donc tu pourrais dire, bah, vous voyez, LeBron, c'est la première option d'une équipe qui joue le titre. Mais, vois, il y a des superstars plus fortes aujourd'hui. Edwards, t'as des mecs. Parce que les Timberwolves, ils ont des lacunes. C'est pas la meilleure attaque de la ligue. Sur demi-terrain, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas forcément toujours très bien. Mais t'as un mec qui est capable de tout gommer. LeBron, il ne peut pas tout gommer sur l'intégralité d'une campagne. Anthony Davis non plus. Anthony Davis, il a toujours eu du mal, d'ailleurs, même avec le statut de leader. Enfin, ce n'est pas un leader. Moi, j'ai peur pour eux du moment où LeBron y part, en fait. Mais
Ouais.
Davis, il va porter quelle équipe? Ça va être une équipe. Il est fort, il est très fort, mais au niveau de
Ouais.
l'attitude.
Mais c'est un, si ce n'est le seul club qui peut se dire, on fera venir nous un free
Ouais,
agent.
quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, ouais.
Mais c'est, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, l'autre truc pour les Timberwolves, j'y pense maintenant que tu le dis. L'autre atout qu'ils ont, c'est qu'ils jouent de manière atypique. Et qu'en fait, si tu regardes les équipes qui ont été comme ça très fortes, c'est des équipes qui ont eu des joueurs qui étaient en plein dans leur prime et qui ont changé un peu la donne sur comment ça se faisait, comment se faisaient les choses. Regarde, finalement, quand le Miami Heat commence à carburer à fond, c'est pas juste parce qu'ils ont Dwayne Wade, Chris Bosh et LeBron, parce qu'ils jouent d'une manière qui se jouait pas à l'époque en fait, avec Chris Bosh en seul pivot qui s'écarte, une espèce de small ball, ils commencent à changer sur tous les écrans. Ils ont aussi eu une manière atypique de jouer qui leur a permis de faire la différence. Même chose pour les Warriors. T'as Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green et un jeu offensif complet qu'on n'avait jamais vu en fait, avec autant de tirs à 3 points, autant de joueurs en mouvement. Et t'as besoin d'avoir les deux en fait. Et finalement, alors je dis pas que les Wolves iront forcément aussi loin que les deux équipes que je viens de cibler, mais pour l'instant, ils ont aussi un jeu atypique parce que plus personne joue vraiment avec deux bigs comme ça en même temps. Il y a des choses qui sont pas que t'as pas vu 82 fois dans la saison et qui peuvent te surprendre quand quand tu arrives en playoff, surtout si tu n'as pas ce que tu disais, c'est un supporting cast qui est complètement au niveau, ou la capacité pour tes stars à gommer en fait ces zones d'incertitude et te faire passer un cap supplémentaire. Allez, on va rester sur, on va passer pardon, sur une autre question complètement qui nous a été envoyée par. Tac, 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 il n'y a pas de signature. C'est dommage. Je ne sais pas quel est le nom. Alors, c'est, par Grace Hill, ou E-A-L-E, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça se prononce, désolé, je vais le prononcer Grace Hill. Une question qui nous a envoyée de Kinshasa en RDC. J'aimerais avoir votre avis sur Jaylen Brown, s'il est à la hauteur de son contrat, comparativement par exemple à ce qu'on voit faire Ant depuis le début des playoffs.
Bah, ils ne sont pas au même niveau, mais le contrat, je sais que c'est facile de juger un joueur par rapport à son contrat, mais un contrat, ce n'est pas qu'une question de niveau de jeu, en fait. Un contrat, c'est tout un contexte. Il y a des franchises qui savent pertinemment que leur joueur ne vaut pas forcément le contrat qu'elles lui offrent, mais si elles n'ont pas une autre opportunité pour remplacer ce mec, elles ne peuvent pas se permettre de faire autrement que lui proposer ce contrat. Donc les Celtics, c'était acquis que Jaylen Brown, en tant que deuxième option de cette équipe, en tant que deuxième star qui a grandi, qui a été drafté par cette équipe et qui grandit aux côtés de Tatum, même si parfois leur association, on se demande quelle est la synergie, etc. C'était sûr qu'il allait avoir ce contrat. Donc oui, il n'est pas aussi fort qu'Anthony Edwards, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu es Boston ? Tu vois, ils ont essayé Kevin Durant, ça n'a sans doute pas marché. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le signes, tu ne vas pas le laisser partir pour rien. Si aujourd'hui, tu enlèves Jaylen Brown à cette équipe, même s'il y a Kristaps Porzingis, bah, cette équipe, elle est moins forte, tu vois. Elle est forte avec Jaylen Brown. Et du coup, bah, ils ont besoin d'avoir Jaylen Brown. Et lui, il a besoin de faire, bah, de jouer de la meilleure manière possible, d'être le meilleur Jaylen Brown possible. Et on l'a déjà vu l'être en playoff. Il a déjà été très bon. D'ailleurs, je pense que c'est leur meilleur marqueur actuellement depuis le début des playoffs. Il a 23 points et 53% de réussite au tir quand même, par exemple, Jaylen Brown. Donc oui, j'espérais à un moment qu'il devienne un peu plus un joueur proche de Jimmy Butler ou Paul George, tu vois, capable de cocher plusieurs cases. Je pense qu'il n'aura jamais vraiment le playmaking. Je pense que ça ne sera jamais vraiment un joueur de cette catégorie. Tu vois, ce sera toujours un joueur. Et si à un moment, Boston, ça ne marche pas, je suis quasiment sûr que c'est lui qui sautera. Tu vois, si à un moment, si les Celtics ne gagnent pas là, dans les deux prochaines années, bah, peut-être que ouais, ils se diront bah, non, mais en fait, ça ne marche pas. On a besoin d'un autre joueur avec Tatum. Tatum, on y croit. Il est très fort. On a besoin de prendre un autre mec avec. Et Jaylen Brown sera celui qui saute. Mais pour l'instant, ils vont tenter d'aller gagner avec lui.
Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, pour le salaire, c'est simple. Aucun joueur mérite les salaires que personne, et je vais même pas dire joueur, en fait. Je vais dire personne ne mérite de gagner autant d'argent, que ce soit un président d'entreprise, un footballeur ou un basketteur. Il faut enlever, en fait, faut remettre tout dans son contexte, tout est relatif, en fait. Personne mérite de gagner autant d'argent. Le cas d'un joueur comme Jaylen Brown, simplement, il était en position de demander autant d'argent. Les Celtics n'étaient pas en position de lui refuser de lui donner autant d'argent, donc il a eu ce contrat, et dès cette intersaison ou dès la prochaine, quelqu'un gagnera plus d'argent que lui, c'est la nature des choses. Je pense qu'il faut décorréler un petit peu les performances des salaires, parce qu'en fait, les salaires sont purement circonstanciels. C'est pas pour lui casser du sucre sur le dos non plus, mais l'intersaison où Nicolas Batum signe son très gros contrat, ça veut pas dire qu'il a une valeur vraiment intrinsèque qui vaut ce contrat, c'est qu'il est en position d'exiger ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi j'ai trouvé Jaylen Brown vraiment bon en fait cette année, et que même défensivement j'ai trouvé qu'il était, on retrouvait un petit peu le Jaylen Brown des années précédentes, un peu plus incisif, j'ai trouvé, parce que bah voilà, c'est aussi plus facile de défendre fort quand t'as d'autres gens qui peuvent être derrière toi, qui vont défendre fort à leur tour. Et finalement j'ai l'impression que la limite peut-être de Jaylen Brown, j'ai l'impression que c'est sa force par ailleurs, c'est quand tu regardes jouer les Celtics, tu peux avoir l'impression qu'il est un peu déconnecté de ce qui se passe autour de lui, et tu vois, parfois, t'as l'impression que c'est un petit peu un... Pas un soliste, mais un...
C'est l'électron libre dans le machin, quoi.
Exactement. C'est un puncher, en fait. Quelle que soit la situation, il va chercher à puncher, notamment en attaque. Et donc, ça peut être problématique si tu cherches à retrouver du lion. Ça peut aussi te sortir de situations difficiles. On se rappelle de matchs en playoff où c'est lui, finalement, qui a porté un peu la baraque quand Jason Tatum était en difficulté. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il fait une bonne saison. La saison des Celtics, c'est pas facile à évaluer non plus d'un point de vue individuel, parce qu'en fait, il y a tellement de talent dans le 5 majeur que les choses se diluent un petit peu et que la pression est monstrueuse. Les attentes, elles sont énormes, hein, quand même. Là, enfin, C'est quand tu es à ce point devant, finalement, tout ce que tu fais bien, plus personne le note. On note que tes faiblesses, que les moments où tu flanches un peu. Donc, ils peuvent pas se rater en fait cette année, Boston, s'ils veulent poursuivre sereinement pour la suite. Mais non, moi, je trouve à sa place Jaylen Brown.
Je partage.
Allez, une dernière question peut-être, avant de refermer ce CQFR qui nous a envoyé par Julien, qui nous dit, j'ai une question pour les Spurs. Victor Wembanyama j'ai dit une question pour les Spurs? Alors si c'est une question pour les Spurs, il faut l'envoyer aux Spurs. J'ai une question sur les Spurs. Victor a beau vouloir apprendre, il affirme également être au quart de ses capacités. Qu'est-ce que vont faire les Spurs à l'intersaison pour donner à manger à notre Frenchie mort de faim? Sinon, quel meneur semblerait pour vous le bon bail pour faire des pick and roll de l'enfer avec lui?
C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir répondu souvent à cette question. Ou en tout cas, dans des late sessions, ou etc. Victor Wembanyama, apparemment, ça serait le plus patient au sein du projet. Encore plus patient que le front office. Il est mort de faim, bien sûr qu'il veut gagner, mais il comprend aussi comment ça se passe. Ils ont gagné. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de rappeler quelque chose. L'effectif très faible des Spurs. Cet effectif, sans Victor Wembanyama, ils ont gagné 22 matchs. Avec Victor Wembanyama, ils ont gagné 22 matchs. Tu passes pas de 22 matchs à 50 victoires. Il y a des étapes, il y a un processus. Ça sert à rien de vouloir absolument accélérer le processus. Victor Wembanyama, je pense qu'il apprend très vite. Je pense que l'an prochain sera un All-Star. Je serais même pas surpris qu'il soit à 26, 27 points par match. Il a montré sur la fin de saison qu'il comprend à une vitesse, il progresse à une vitesse, il évolue à une vitesse impressionnante. Donc oui, peut-être que les Spurs, ils seront à nouveau compétitifs dans 3 ans et pas dans 5, comme la plupart des équipes qui repartent de zéro. Mais il faut laisser le temps. Pourquoi vouloir absolument... Donc moi, je pense que le but de l'intersaison, c'est de travailler en fait avec ceux qui sont déjà là. Les Devin Vassell, les Jeremy Sohan. Bien sûr, si tu peux ajouter quelques vétérans capables d'encadrer ton groupe, ton vestiaire, un peu comme l'a fait les Rockets, par exemple, comme l'ont fait les Rockets. Des mecs qui vont montrer la voie, qui vont expliquer des choses, qui vont montrer comment ça marche. Mais là, déjà, ils vont avoir un pic bien placé de plus, donc un jeune talent de plus. C'est autour de ça qu'il faut travailler. Il faut qu'ils développent le groupe qui est déjà en place. Moi, je suis absolument pas partisan de faire venir un All-Star. Donc, le fameux meneur en question, bah, ça dépend de qui il draft déjà. S'il draft un meneur, bah, c'est lui le meneur. Sinon, oui, j'aurais tenté de te dire, si TJ McConnell, il veut venir, mais tu vois, je ne vois pas l'intérêt. En fait, je ne comprends pas quel serait. Même pour jouer des pick and roll, déjà, je pense que Victor, il n'est pas destiné à jouer que des pick and roll. Je pense qu'on est sur un joueur qui va avoir le ballon. Ça va être lui à un moment le playmaker. Toutes les stars, c'est eux les playmakers. C'est eux qui ont la balle, tu vois. En NBA, quel que soit ton poste, si tu es bon, c'est toi qui as la balle. Et je pense qu'à un moment, Victor Wembanyama, il aura la balle. Donc, je veux même pas forcément l'associer, moi, avec un meneur star. Je sais pas encore auprès de quel joueur vraiment je veux voir Victor Wembanyama parce qu'on sait pas encore quel joueur il est. Et surtout, il est un joueur tellement différent de tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on a connu. L'intersaison, pour moi, voilà, c'est la priorité, c'est bosser avec ceux qui sont déjà là et compléter avec quelques vétérans et pas forcément besoin d'aller voir plus loin. Et j'ai l'impression que c'est ce que vont faire les Spurs en plus. Je trouverais ça ridicule qu'ils fassent venir Ingram, par exemple. Ou
Ouais.
Trae Young.
Non, bah ouais, Trae Young, c'est un peu différent. Parce que Trae Young, c'est un peu différent que Ingram. Mais enfin, en fait, ils vont pas le faire. Mais Trae Young, je pourrais plus comprendre peut-être parce qu'en fait, tu vas générer plus de jeux. C'est pas, pour moi, c'est pas forcément une réponse à court terme en fait. Ça, dans le sens où c'est pas ce qui va te faire. Je m'exprime mal, je vais réexpliquer. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour moi, si tu fais venir Trae Young dans cette équipe des Spurs, ça veut pas dire que tu joues les playoffs à tout prix et que tu veux absolument passer un cap, en fait. C'est que tu vas avoir un jeune joueur qui est fort, qui a des qualités, mais Trae Young change pas la vie des Spurs, en fait, de mon point de vue, s'il venait l'an prochain. C'est ça que je voulais dire. Mais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, Antoine.
Par contre, les attentes seraient différentes. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que si les Spurs ils font Trae Young, donc ça veut dire qu'il lâche quoi, 4-5 tours de draft. Donc en fait, tu n'as plus d'avenir.
Ah oui,
Ton
non, mais ils
avenir,
font pas
c'est
ça,
le
je suis
fait.
d'accord.
Ouais, tu vois, mais
Non, je
si
crois que
c'était
c'était
le cas.
juste... Oui, pardon.
Ok, juste purement hypothétiquement sur le jeu,
Ouais.
est-ce que ça signifie qu'ils visent les playoffs ou que, pardon, ou
Oui, non,
à
pardon.
quel.
Effectivement, du coup, quand tu as mentionné Trae Young, j'ai pas du tout pris en compte la monnaie d'échange, parce qu'en fait, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi de ce point de vue-là, ça n'a pas de sens pour moi, pour les Spurs, de gaspiller quelque part leur avenir pour faire venir Trae Young. Je parlais juste d'un, imagine d'un pur point de vue basket. Si tu peux rajouter Trae Young, tu gardes tes choix de draft. Imagine scénario
ouais, juste il vient
improbable.
Gratuitement et juste... en agent libre. Voilà.
Voilà, exactement. Bah, je pense que ça te permet de développer d'autres choses sans forcément que ça fasse de toi un prétendant direct au playoff. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Quoi.
Moi, je pense pas que Trae Young il suffira à faire progresser. Enfin, l'équipe a gagné 22 matchs, quoi. Je le répète. Après, oui, Trae Young plus une éventuelle ascension fulgurante de Wembanyama plus Vassell. Oui, là, peut-être que ça jouerait les playoffs. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je pense pas que c'est forcément l'arrivée de Trae Young serait pas forcément en mode ah bah regardez, on joue absolument pour être compétitif maintenant. Je suis d'accord avec toi. Par contre, en fait, ça serait perçu comme tel. Et du coup, des jeunes joueurs seraient obligés de répondre à des questions. Bah, pourquoi vous êtes à 35, 39? Pourquoi vous êtes derrière machin? Pourquoi ça marche pas? Tu vois? Et d'un coup, c'est différent. Et Trae Young, il est jeune, mais moi, je préfère l'idée de se dire qu'il reste pour l'instant aligné. Après, c'est vrai que Trae Young, au final, quand Wembanyama sera dans son prime, Trae Young sera sans doute encore dans son prime.
Ouais.
Tu vois, c'est plus ou moins la même génération. Il y a quand même quelques années d'écart. Tu vois, il doit y avoir quoi, 5 ans d'écart. Trae Young, il doit avoir 25, 26 ans maintenant. Mais
ça reste une fenêtre qui est plus que correcte.
Je suis d'accord, qui est plus ou moins la même. À la limite, lui, pourquoi pas. Mais la monnaie d'échange, clairement, je veux dire, pas oublier que les Spurs, ils lâcheraient au moins un de leurs jeunes, au moins un, voire plusieurs, parce qu'il faut de façon équilibrer les salaires, et un paquet de pics, quoi. Et je trouve que Dejounte Murray, très mauvaise idée aussi, selon moi, tu vois. Il y a le côté, ah, c'est un ancien Spurs, il défend. Je sais pas, j'aime pas le jeu de Dejounte Murray, en fait. Je suis pas objectif, j'allais dire. Le pire, c'est que je l'ai pas assez vu jouer, donc peut-être que je raconte des bêtises, et ceux qui connaissent mieux les Hawks, mais en même temps, vous êtes quoi, 15 en France.
La balle perdue. Ah.
Non, pardon, c'était gratuit. Tu sais, le mec, il reconnaît que non seulement il les regarde pas, mais en plus, il chambre la fanbase, quoi. Le gars a vraiment aucune limite. Mais non, mais honnêtement, les matchs des Hawks que j'ai vus, c'est un bon joueur, Dejounte Murray, mais je sais pas, c'est quand même une sélection de tirs ultra dégueulasse, quoi.
C'est ce qu'on s'était dit quand ils l'ont tradé, en fait. On s'est dit, de toute façon, lui, il va pas te changer ta vie, en fait. Donc, si tu peux récupérer un max d'assets en échange, tant mieux, parce que t'augmentes tes chances de pouvoir choper Wembanyama et derrière tu vas choper des draft picks et tu pourras en faire ce que tu veux en fait, soit les garder, soit les échanger. Donc oui, je partage tout à fait ton avis. En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que les Spurs, ils ont été super honnêtes dès le départ sur ce qu'ils voulaient faire et que tout le monde a projeté des choses sur eux en disant ouais, c'est pas normal, Popovic sait plus ce qu'il fait, faut arrêter avec ceci, avec cela. Ils ont jamais dit qu'ils voulaient gagner un max de matchs cette année. Bien sûr, quand ils sont sur le terrain, ils veulent gagner des matchs, c'est pas la question, se pose pas. Mais je pense que c'est une équipe qui a été hyper finalement pas courageuse, mais rigoureuse dans son approche des choses. L'objectif, c'est pas cette année. Nous, on veut voir ce que les joueurs peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. C'est comme un laboratoire, en fait. On va regarder des trucs et on va pas se mettre à se dire il faut qu'on gagne. Et c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est à mettre au crédit de Victor Wembanyama, quand même. Parce que, en gros, la pression, elle est quand même sur lui, même si c'était sa saison rookie. C'est à lui qu'on va poser les questions. On sait qu'il est quand même bien protégé par la com du club. Voilà, c'est pas si simple que ça d'avoir des entretiens ou de lui poser des questions. Enfin, ça, il a toujours été bien protégé de ce côté-là. Mais moi, je pense que c'est hyper cohérent ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas d'urgence et l'an prochain, il n'y aura pas d'urgence non plus. À partir
et ils
de
vont
la troisième
progresser
année,
naturellement.
Ils vont progresser naturellement. Ils vont faire des choix de draft. Ils prendront ce qu'il faut, ils garderont ce qu'il faut garder, ils feront des échanges. Moi, j'ai confiance, cette équipe, elle fonctionne trop bien depuis 20 ans pour qu'ils se mettent à dysfonctionner maintenant qu'ils ont des plus grands potentiels de ces 50 dernières années. Et pour ce que tu disais, tu sais, sur le gap passé d'une équipe à l'autre, d'une année à l'autre, avec Victor, c'était 22 victoires, sans Victor, c'était 22 victoires, avec lui, c'est 22. C'est pas du tout la même situation que quand ils ont récupéré David Robinson ou encore plus quand ils ont récupéré Tim Duncan, où là, tu avais une équipe qui était prête à performer, en fait. Si vous écoutez le Hoop Culture de dimanche avec Pierre, on reparle un petit peu de saison rookie historique. Et à un moment, voilà, je rappelais que simplement, les Spurs, quand ils récupèrent Tim Duncan, il y a un coup de hasard avec la blessure de David Robinson qui est orchestré ensuite par Santonio qui se dit ça sert à rien qu'on le fasse revenir. Autant qu'on tanque au maximum parce qu'il y a ce power forward incroyable qui arrive à la draft. Ils arrivent à le choper et du coup, ils sont tout de suite performants parce qu'ils ont déjà toute l'ossature. Là, à Santonio, il n'y avait pas l'ossature pour carburer avec Victor. Mais regarde, imagine si tu avais mis Victor à OKC. Je pense que l'équipe, elle aurait cartonné aussi. Si tu l'avais mis, tu vois, dans une équipe comme ça. Et encore, OKC, ils étaient finalement... ils étaient bien plus performants que ne l'étaient les Spurs avant l'arrivée de Duncan. Donc je pense quand même que c'est un joueur qui aurait fait passer un cap à pas mal d'équipes. Juste, c'était pas l'objectif des Spurs cette saison. Et voilà, moi je trouve que c'est. Il y a... enfin, ils sont dans une situation qui est rare en fait. Ils n'ont pas de pression, quoi. Il y en a pas beaucoup des années
Il
comme
n'y en a
ça en
pas
fait.
encore.
Il n'y en a pas encore, ça que je veux dire. Mais là, ils n'avaient pas de pression cette année. Il n'y en aura certainement pas encore l'an prochain. Troisième année, il faut que tu commences à avoir des résultats. C'est comme ça que ça se passe. C'est là qu'il y a les prolongations de contrats rookies. C'est là qu'il y a quand même tout un tas de choses qui se mettent en place. Et c'est important, malgré tout, d'avoir profité de ces deux premières saisons, justement pour voir qui tu dois garder, qui tu peux évacuer, comment tu vas préparer la suite, en fait.
Ouais, je valide complètement tout ce que tu as dit. Je suis... D'ailleurs, je pense qu'il y aurait trop de. En fait, ça demanderait trop. Si par exemple, là, les Spurs voudraient être absolument compétitifs, ça rejoint ce que tu dis. Il y a trop de mouvements à faire, en fait, dans l'effectif. Et l'effectif, il n'est pas prêt à être compétitif. Donc, il faudrait qu'en un été, tu bouleverses tout. Mais du coup, tu bouleverses tout. Et il faut que tous les joueurs, ils apprennent vite à jouer ensemble. C'est trop compliqué.
Et tu sais, d'un point de vue purement stratégique, enfin, tu dis, attends, là, tu as Jokic, MVP de la saison. Tu peux dire, il est encore dans son prime. Okay? Tu as les Wolves qui sont en train de monter en flèche. Tu as Luka Doncic qui a même pas encore peut-être commencé son prime. Là, il y a une génération dans la conférence Ouest qui est énorme, en fait. Tu veux tout miser maintenant et te manger tous ces mecs-là quand ils sont tous dans leur fenêtre de prime, ou tu dis, attends, dans 2 ans. Attendons de voir ce que Denver fera. Dans 2 ans, bah on verra les Wolves finalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de 4? Est-ce que vraiment ça marche ou pas? T'sais, dans 2 ans, il y a un tri, peut-être une espèce de sélection qui sera déjà faite par elle-même dans la conférence Ouest. Là, je pense que c'est limite, cette année, c'était une des pires équipes, une des pires années, c'est un peu le cas des Clippers en fait. C'était une des pires années pour essayer de faire un coup parce qu'il y a juste trop d'équipes trop fortes.
Non, c'est clair.
Allez, on verra la suite plus tard. Je te propose de refermer la page là-dessus, Antoine. Il y
Yes.
avait encore pas mal de questions. Merci hein, pour toutes vos questions. On est désolé, on n'a pas le temps de toutes les poser, mais on n'hésitera pas à en reposer d'autres à l'avenir.
Yes, et n'oubliez pas l'adresse cqfr.reverse@gmail.com. Donc voilà, si vous voulez poser votre question, vous pouvez envoyer, et puis peut-être qu'elles seront sélectionnées. D'habitude, Théo a l'occasion de les lire à l'avance, donc il peut sélectionner un peu, vous pouvez mettre des pots de vin. Je ne sais pas comment ça marche, des pots de vin par mail. Des virements PayPal, peut-être.
Ouais,
Mais...
c'est ça. Allez sur le OnlyFans d'Antoine et envoyez de l'argent.
Bon, écoutez, sur ces belles paroles, sur ces très belles paroles, sur ce très beau conseil, on va tous vous souhaiter un bon week-end et on se retrouvera lundi. N'oubliez pas, le dimanche, il y a le Hoop Culture qui est disponible, Pierre Armand, Théo. Donc voilà, allez checker ça. Et d'ici là, bonne journée. Ciao, ciao.
Bon week-end, ciao.